dans Matthieu chapitre 7. Vous avez probablement remarqué que depuis quelque temps, nous faisons référence très souvent sur ce sermon sur la montagne, où il y a trois chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, non seulement le dimanche, mais aussi le mardi soir, depuis environ un mois, nous étudions chacune des béatitudes qu'on trouve aussi dans ce sermon sur la montagne. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous les six premiers versets de ce chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. On va relire ce verset 6 parce que c'est celui-là qui va nous intéresser particulièrement ce matin. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ce verset 6 a de quoi surprendre. Peut-être même, pour certains, nous choquer. Surtout que l'on sait que cette parole du verset 6 sort de la bouche même de Jésus, le Fils de Dieu, de celui qui nous a tant aimés, de celui qui est amour. Comment le Fils bien-aimé du Père, Jésus, comment celui qui est amour peut-il prononcer une telle parole? Comment celui qui nous a tant aimés jusqu'à aller à la croix pour chacun d'entre nous peut-il dire « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent ?» Comme je le disais, ce verset à quoi nous surprendre et voire nous choquer, surtout quand on sait de qui ces paroles viennent. N'oublions pas que Jésus, dans ce sermon sur la montagne, s'adresse à ses disciples. Il y a là, dans ce sermon sur la montagne, des enseignements d'une intensité énorme, profonde. Des enseignements que Jésus laisse à ses disciples parce qu'ils vont être appelés à le suivre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et suivre Jésus, ce n'est pas rien. Suivre Jésus, c'est toute une vie, ça concerne toute notre vie, tout notre comportement, nos pensées, nos motivations et nos actes. Comprenons bien que pour bien comprendre ce verset, il nous faut le remettre dans le contexte général du sermon sur la montagne. Et puis, bien sûr, il nous faut comprendre les mots. De quoi s'agit-il lorsque Jésus parle des choses saintes? De quoi s'agit-il lorsque Jésus parle des perles? De quoi, et plutôt de qui s'agit-il lorsque Jésus parle des chiens et des pourceaux? Nous allons le voir, parce que si cette parole de Jésus a sa place dans le Nouveau Testament, c'est que nous en avons besoin. Nous qui sommes prêts à suivre Jésus, à suivre les traces de notre Maître. Est-ce que ce verset voudrait-il dire que nous ne pourrions pas annoncer l'Évangile à toute personne? Sommes-nous appelés à faire un tri en disant « Toi, je vais te parler de Jésus, toi non. » Sous prétexte que telle ou telle personne pourrait se retourner contre nous et nous déchirer, comme il est écrit à la fin de ce verset. Non. L'Évangile doit être annoncé à toutes les nations, même au risque d'être déchiré, même au risque d'être méprisé, même au risque de moquerie, même au risque de persécution. Et d'ailleurs, dans les béatitudes, Jésus va terminer les béatitudes en disant, eh bien, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de mon nom. Puis Jésus nous enseigne toujours dans ce sermon sur la montagne, si ton ennemi si on te donne une gifle sur la joue droite, tu vas tendre l'autre. Si on te prend ta tunique, eh bien, alors, laisse aussi ton manteau. Jésus lui-même a annoncé l'Évangile, pas simplement aux Juifs, mais il a annoncé aussi l'Évangile à des païens qui étaient considérés comme des chiens, comme des pourceaux, par les Juifs. Par exemple. Jésus n'a-t-il pas annoncé l'Évangile à cette femme samaritaine, les Samaritains, qui étaient regardés comme des chiens? Jésus a parlé d'espoir, d'eau vive, à cette femme samaritaine, nous laissant ainsi un précieux exemple. Jésus va aussi parler à une femme cananéenne, qu'on appelle aussi la femme syrophénicienne, il va lui dire au premier abord une parole qui peut sembler dure. Il est en train d'éprouver la foi de cette femme qui crie après Jésus parce que son enfant est tourmenté. Jésus va lui dire, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et quoi? Et de le jeter aux petits chiens. Puisque c'était ainsi que les nations non-juives étaient regardées. Cette femme, saisissant la parole de Jésus, avec foi, lui dira, « Eh bien oui, mais les petits chiens vont manger les miettes qui tombent sous la table des enfants. » Jésus lui dira, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette femme a eu la bénédiction qu'elle réclamait à Jésus. Jésus s'est adressé à toutes sortes de personnes. Jésus s'est adressé à des publicains. Jésus s'est adressé à des prostituées, à des gens de mauvaise vie qu'on aurait pu cataloguer de chiens ou de pourceaux. Et Jésus, dans son dernier commandement, nous envoie vers toutes les nations. L'apôtre Pierre dira ceci à Corneille, on peut le lire dans Actes 10, verset 28. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps encore, dans un autre message. Actes 10, verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillés et impurs. Oui. Sinon, jamais Pierre ne serait rentré chez Corneille. Il y a eu cette vision de la nappe où il a vu toutes sortes d'animaux purs et impurs. Et le Seigneur qui lui disait « tu es mangé », le Seigneur était en train de lui apprendre à ne regarder aucun homme impur. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc on voit bien ici que Jésus ne fait pas de distinction de personne par rapport à l'apport de l'Évangile. L'Évangile doit être annoncé à toute personne. Au risque d'être persécuté et méprisé. Dans certaines nations, dans certains pays, il y a une différence qui est faite selon que vous appartenez à telle caste, à telle classe de la société, à telle ou telle famille. Mais l'Évangile brise tout cela. L'Évangile brise tout cela. Si vous allez en Inde, par exemple, vous verrez que selon telle ou telle caste de votre origine, on vous adressera ou on ne vous adressera pas la parole. Mais Jésus nous appelle à annoncer l'Évangile à toutes les nations. Donc, il est clair que ce verset 6 ne concerne pas l'évangélisation, même si nous reconnaissons que l'Évangile, c'est une perle. Même si nous reconnaissons que l'Évangile, c'est une chose sainte. Alors, quels sont ces mots? Que faut-il comprendre lorsque Jésus parle des choses saintes, les perles, les chiens et les pourceaux? Une chose sainte, Jésus s'adresse ici à ses disciples d'origine juive, et ces choses saintes représentent tout ce qui est consacré à Dieu, tout ce qui est à part pour Dieu. Je prendrai un exemple, la louange. La louange, c'est consacré à Dieu, la louange, n'est-ce pas? Nous louons le Seigneur. Pas pour nous, mais pour la gloire du Seigneur. Alors, c'est consacré à Dieu. Nous prenons du temps pour louer le Seigneur, pour intercéder. Nous prenons du temps pour nous retrouver dans la présence de Dieu. Et puis, il y a les perles. C'est beau, une perle. Et ces grâces excellentes de Dieu, ces dons parfaits sont comme des perles. La communion fraternelle est en même temps une chose sainte et en même temps une perle. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous voulons vraiment garder ces choses dans nos cœurs. Que sont ces chiens? Que sont ces pourceaux? Les chiens et les pourceaux étaient des animaux impurs pour les Juifs. À cause de leur comportement, les chiens mettent leur nez partout, mangent n'importe quoi, et ils étaient regardés comme des animaux impurs. Les chiens, il y avait ces bandes de chiens errants, mangeant n'importe quoi dans les rues. Et d'ailleurs, si vous allez en Orient et si vous allez en Afrique aussi, dans certains pays d'Afrique, vous verrez ces chiens errants là, sauvages, qui sont dans les rues et qui mangent n'importe quoi. Et puis les porcs. La loi de Moïse nous parlait des porcs, un animal impur. Quand bien même il serait apprivoisé, il reste impur. Il reste impur par rapport à sa manière de s'alimenter, à son comportement. Des animaux impurs, et il était interdit pour les Juifs de manger ces animaux impurs. Et si on touchait ces animaux, on devenait aussi par là impur. On a bien compris que Jésus ne nous parle pas ici au sens littéral du terme des chiens et des porcs. en tant qu'animaux, mais il nous parle au sens figuré, on a bien compris. Dans ce sermon sur la montagne, il y a plusieurs choses saintes et beaucoup de perles. Il y a les béatitudes que nous étudions le mardi soir. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il y a là tout un collier de perles dans les béatitudes. Hein. Tout un collier de perles. Heureux les miséricordieux. Il y a d'autres choses saintes, d'autres perles que nous voyons dans le sermon sur la montagne. Il est question de justice. De justice. Il est question encore de pardon et de réconciliation. Ça aussi, c'est saint. Ça aussi, ce sont des perles, le pardon et la réconciliation. Et puis, il y a aussi l'amour même de ses ennemis, aimer ses ennemis. Il est question de prière, aussi dans ce sermon sur la montagne. Il y a donc là toute une enfilade de choses précieuses, de perles et de choses saintes que nous trouvons dans ce sermon sur la montagne. Et parmi tout cela, il y a les 5 premiers versets qui arrivent avant le verset 6. Car pour bien comprendre ce verset 6, il nous faut bien comprendre les 5 premiers versets. Ce sont des perles. Jésus nous donne là une perle, celle de ne pas juger les autres. Et le verset 6 vient là pour, en aboutissement, j'allais dire, pour équilibrer tous les 5 premiers versets de ce chapitre 7, où Jésus nous dit de ne point juger afin que nous ne soyons point jugés, parce qu'on va être mesuré avec la mesure dont on s'est servi pour mesurer les autres. On pourrait vite cataloguer certaines personnes par rapport à ce que nous croyons comprendre en elles, discerner en elles, mais bien souvent nous nous trompons dans notre jugement et parce que nous ne sommes pas à la place des personnes et nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à discerner ce qu'il y a dans leur cœur. Non seulement parfois nous portons un jugement, mais parfois aussi on serait capable de dire à des personnes, eh bien, je vais régler ton problème, la paille là qui est dans ton œil, alors que j'ai une poutre. On ressemblerait alors à ce moment-là à des personnes qui sont captifs, esclave de tout un tas de choses et qui promettrait la liberté à d'autres personnes. Donc Jésus nous donne ici un enseignement très, j'allais dire, important qui va déterminer la qualité de notre relation que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Ne pas juger les autres. Nous sommes d'abord invités à regarder à nous-mêmes. Mais on voit tout l'équilibre de Jésus dans son enseignement. Et on comprend. On comprend. C'est vrai que si on sort simplement ce verset 6, cela a de quoi nous surprendre, peut-être même nous choquer. Mais si Jésus n'avait pas dit ce verset 6, on pourrait ainsi tomber dans un excès où, sous prétexte qu'il ne faut pas juger personne, on donnerait, j'allais dire, confiance à toute personne. Or, il y a certaines limites. Et à l'inverse, s'il n'y avait que ce verset 6 et pas les 5 premiers, on en arriverait vraiment à avoir un cœur dur. Mais il y a ce verset 6 et ces 5 premiers versets. Que peut-on voir dans ces chiens et dans ces pourceaux pour bien comprendre? Il est vrai que le Seigneur nous invite à avoir du discernement spirituel aussi. Un peu plus loin dans le chapitre 7, le Seigneur fait une comparaison avec les faux prophètes en disant que ce sont des loups. Bon, c'est quand même la même famille que des chiens. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit même au nom de l'Éternel qu'il faut tout croire. C'est pas parce que quelqu'un cite des passages de la parole de Dieu qu'il faut tout croire. Oui, nous croyons la parole de Dieu, mais pas l'interprétation que certains en donnent. Il nous faut vraiment avoir ce discernement et ne pas donner notre confiance, qui est une perle, à ces faux prophètes. Parce qu'ils sont en train d'abuser de nous et de nous manipuler. Alors, on peut y voir, bien sûr, ces faux prophètes dont il est question au chapitre 7. Dans Philippiens chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul dira « Prenez garde aux chiens ». De quoi il parle ? Parle-t-il de l'animal ? On a bien compris que non. Lorsque l'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis », il parle de ceux qui annoncent de fausses doctrines, de ceux qui, en fin de compte, sont en train de pervertir l'Évangile en le judaïsant. Car c'était ça le contexte. Ils sont en train de pervertir l'Évangile en le judaïsant. On peut pervertir l'Évangile de tellement de manières, de tellement de manières. Nous voulons bien comprendre que ces personnes-là sont aussi des personnes qui égarent les âmes. Dans 2 Pierre chapitre 2, on peut lire ce texte car il nous éclaire sur les paroles de Jésus, sur ce verset 6. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 17. Ces gens-là, on va voir de qui il s'agit, de ces gens-là. On voit, l'apôtre Pierre va se montrer assez sévère. On aurait pu lire tout le chapitre 2, mais ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours, excusez-moi, je vais relire le texte. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ah, il est encore question de cochon et de chien, là. Et ici, avec ce passage, nous comprenons bien de qui l'apôtre Pierre parle. Il parle de ceux qui, après avoir connu le Seigneur Jésus, après s'être retiré des souillures du monde, parce que, évidemment, les souillures de ce monde, c'est un bourbier, semblable au bourbier dans lequel le cochon va se vautrer, et on a tous été retirés de cela. Merci Seigneur. Nous étions dans le bourbier du péché, mais le Seigneur s'est révélé à nous et nous avons suivi le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Certains s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Vous prenez. Et là, l'apôtre Pierre dira, il leur est arrivé ce qu'un proverbe vrai dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et donc, il est question clairement de ceux qui ont abandonné la foi. De ceux qui se sont détournés de Jésus-Christ. De ceux qui, après avoir confessé le nom du Seigneur, après avoir connu la grâce du Seigneur, après avoir été libérés de la puissance du péché, sont retournés, comme le chien va retourner à ce qu'il a vomi. On comprend pourquoi c'est un animal impur. Hein. Essayez de laver un cochon, il ne va pas rester propre longtemps, il va retourner dans son bourbier. Vous voyez ? C'est ainsi. C'est ainsi. Alors, il est vrai que disant ceci, il nous faut avoir un discernement parce qu'on pourrait avoir à ce moment-là porté un jugement sévère envers certaines personnes et peut-être même leur dire « Oh ben, je vais vous aider ». Ouais, mais toi, tu as une poutre dans ton œil. Hein. C'est là qu'il faut avoir du discernement, savoir, en fin de compte, si c'est une brebis égarée, si c'est un fils prodigue ou si c'est quelqu'un qui s'est positionné vraiment et d'une manière définitive contre le Seigneur Jésus-Christ après l'avoir connu. C'est là qu'il faut avoir du discernement. C'est là qu'il faut avoir du discernement pour ne pas se tromper. Et la parole de Dieu veut nous apprendre à avoir du discernement. Et on pourrait avoir un jugement qui est dur, un jugement qui est sévère envers certaines personnes. On dit bah, il a lâché la main du Seigneur. Mais avant d'avoir un jugement par rapport à cette personne, avant de dire que c'est un, excusez-moi le terme, que je vais employer un chien ou un pourceau, il nous faut comprendre si c'est un fils prodigue ou si c'est une brebis égarée. Et là encore, il y a deux attitudes à avoir. La brebis égarée, le bon berger va aller le chercher, cette brebis. Elle peut pas revenir toute seule. Quand dit que le fils prodigue, le père, il va pas courir après, il attend qu'il revienne. Mais les deux vont revenir. Par contre, pour les chiens et les pourceaux, là, oui. Parfois on dit, mais cette personne avait un puits à l'église. Oui, mais ça ne veut pas dire que cette personne a abandonné la foi. Il y a peut-être un moment de faiblesse, d'ailleurs il nous est dit de supporter les faibles. Il y a peut-être un moment où cette personne a peut-être un passage difficile dû à certaines épreuves dans sa vie, ou peut-être voire même certaines influences. Mais faisons confiance au divin berger qui peut ramener eh bien, ses brebis. L'apôtre Jude écrira dans le livre qui est juste avant l'Apocalypse que pour certaines personnes, il faut haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair, c'est-à-dire qu'on ne touche pas. Il y a des personnes, il vaut mieux pas s'en approcher. Et l'apôtre Paul va faire certaines recommandations à Timothée envers certaines personnes, parce que, oui, ces personnes-là, après avoir connu la grâce du Seigneur Jésus, se sont fortement opposées à l'Évangile. Ce sont ces chiens et ces pourceaux qui sont retournés à leur vomi, retourner à leur bourbier. Il parle entre autres d'Alexandre le Forgeron. Alexandre le Forgeron a abandonné la foi. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée de se garder de lui. Éloigne-toi de lui. Hein. De se garder de lui. Parce que cet homme ne peut pas bénéficier, j'allais dire, de cette perle de la communion fraternelle, parce que cet homme-là est quelqu'un qui s'est dressé contre le Seigneur Jésus. Il parle non seulement de lui, mais il parle aussi d'Hyménée. On peut lire dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 19. « Il dira, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Oui. Ah, c'est clair. Voilà, l'apôtre Paul, hein, il a livré à Satan Hyménée et Alexandre. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu toute bonne conscience. On ne peut plus leur faire confiance. On ne peut plus, j'allais dire, leur donner cette perle de la communion fraternelle. Il n'y a plus de communion fraternelle possible avec eux. La communion fraternelle, c'est quelque chose de saint. La communion fraternelle, c'est une perle. C'est une grâce de Dieu. Et on ne peut pas, sous prétexte peut-être d'amour ou sous prétexte de sentimentalisme, on pourrait faire du sentiment. Oh, les pauvres, le pauvre Hyménée, le pauvre Alexandre. Faut bien le comprendre, faut bien les comprendre. Ben non. Et c'est là tout le discernement. C'est là tout le discernement qu'il nous faut avoir. Après, bien sûr, après ce premier discernement qu'il nous faut avoir avec les cinq premiers versets de Matthieu tout à l'heure, voilà, de pas juger, bien sûr, il y a des personnes, il nous faut bien sûr les accueillir, il nous faut les faire participer à la communion fraternelle, quand bien même ils passent par des moments de faiblesse, mais pour d'autres, c'est plus possible. Pour d'autres, c'est plus possible. On pardonne ce qu'ils font, ce qu'ils nous ont fait, mais ça ne veut pas dire que s'il y a pardon, la communion peut être rétablie. C'est deux choses différentes. Nous pardonnons devant Dieu, même s'ils nous ont fait du mal, mais on ne peut pas, dans certains cas avec ces personnes-là, eh bien, avoir de communion fraternelle. J'ai connu dans mon parcours pastoral certaines personnes qui étaient membres de l'Église et qui malheureusement se sont détournées de la foi et ont une mauvaise confiance. Notamment un homme qui est devenu méchant et qui s'est enfoncé de plus en plus dans sa méchanceté. Cet homme avait été baptisé et il avait marché avec le Seigneur et puis il s'était aigri, l'amertume. Il avait perdu toute bonne conscience. Et après avoir usé de beaucoup de patience, à un moment donné, bien sûr, j'étais obligé d'agir. Surtout un jour, lors d'une réunion de prière où il se servait de la prière, une chose sainte, une perle, pour déverser sa méchanceté et ses grossièretés. Alors, je me suis levé de la chaise, j'ai été le trouver, je lui ai demandé de sortir. Il n'a pas voulu sortir, alors je l'ai pris par le bras et je l'ai fait sortir. Et j'ai refusé tout contact avec lui. Même une fois, lorsque, peu de temps après, il a fait un AVC, il est à l'hôpital. Certains m'ont dit, mais oh le pauvre, il est à l'hôpital. J'ai refusé d'aller le voir. Plus de communion. Vous voyez, il y a un moment donné, c'est non. Par contre, à peu près à la même période, et dans la même église, un autre s'est aussi montré très méchant, très virulent. Et puis cette personne, bien sûr, j'ai essayé de lui parler. Et cette personne est aussi tombée malade. Par contre, c'est là qu'il faut avoir du discernement, comprenez. Et le Seigneur nous donne du discernement. Je suis allé le voir à l'hôpital. Et le fait d'aller le voir à l'hôpital, cette personne, a été touchée dans son cœur et a changé d'attitude. Mais nous n'étions pas à ce moment-là dans l'attitude, j'allais dire, de cet Hyménée, de cet Alexandre. Il y a, pour certaines personnes, il est vrai, des choix à faire qui ne sont pas faciles à faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça ce matin, mais bon, le Seigneur a ses raisons. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, lisons bien, se nomme en frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Il est bien question de ceux du dedans. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous voyez? Ceux du dehors, nous on ne peut pas dire c'est un chien, c'est un pourceau. C'est Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Nous, ce qu'on aura à apporter à ces personnes, à ceux du dehors, nous étions aussi de leur nombre. Ce que nous devons leur apporter, c'est l'évangile, l'amour du Seigneur. Comme Jésus s'est adressé à toute personne, même aux gens de mauvaise vie. Ça appartient à Dieu. Par contre, pour ceux du dedans, ceux qui se nomment frères, c'est de cela dont il est question quand il est parlé de chiens et de pourceaux, de ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Qui se nomment frères est impudique, cupide, idolâtre, outrageux ou ivrogne. Vous voyez ? Même pas avoir de relation avec eux. Parce que, voilà, comprenons bien que la communion fraternelle est une chose sainte, c'est une perle. Même l'apôtre Jean dira, par rapport à certaines personnes, ne même pas les saluer. Hein. Oui. Même pas les saluer. Alors, ceci étant dit, nous revenons aux enseignements de Jésus sur le sermon sur la montagne. Jésus a donné ses enseignements, ses disciples. Nous sommes là dans les premiers temps du ministère de Jésus. Ce sont ses premiers disciples qui sont là, autour de lui. Il n'a pas encore nommé les apôtres. Il va bientôt les envoyer avec un message. Et puis, bien sûr, avec la puissance pour guérir les maladies et chasser les démons. Mais Jésus leur donne des enseignements parce que, au fur et à mesure de leur service, au fur et à mesure de leur marche, ils vont rencontrer des situations difficiles, éprouvantes. Non seulement des situations difficiles, éprouvantes envers ceux qui ne sont pas encore disciples, mais même entre eux. Même entre eux. Parce que même certains disciples de Jésus vont se détourner de la foi. On peut penser à Judas. Et malheureusement, ça ne sera pas le seul cas dans toute l'histoire de l'Église, et même encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui se détournent de la foi, des personnes qui racontent n'importe quoi, et qui font des âmes leur proie. Ce sont des prédateurs. Font des âmes leur proie. Ils se servent de l'Évangile pour attirer les personnes à eux et surtout leur portefeuille. Vous savez, c'est surtout ça. Mais il nous faut avoir du discernement afin de voir si dans ce cas-là, nous sommes dans le verset 6 ou nous y sommes pas. En tout cas, on comprend bien l'utilité de ce verset par rapport à nous qui sommes appelés à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui rencontrons parfois des difficultés, qui avons des soucis parfois. Oui, bien sûr, nous sommes appelés à porter le fardeau les uns des autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à même aimer nos ennemis, comme Jésus le dira sur le sermon sur la montagne. Mais par rapport à ceux qui ouvertement se détournent de la foi et se dressent contre le message de l'Évangile, ou utilisent, pervertissent le message de l'Évangile, il nous faut la plus grande prudence. Surtout en ces temps où nous savons, comme Paul le dira aussi, qu'il s'élèvera du milieu de vous de faux docteurs, il nous faut vraiment avoir du discernement et pas donner crédit à toute personne. Que le Seigneur nous aide à avoir ce discernement spirituel. Et Jésus dira un peu plus loin dans ce sermon sur la montagne, toujours au chapitre 7, et bien que c'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais c'est à son fruit. Le fruit, c'est ce qui vient de l'arbre. Vous savez, c'est ce qu'il va produire. Et pour transposer, ce n'est pas ce qu'un homme fait ou ce qu'une femme fait, c'est surtout ce qui vient de lui, de son cœur. Car quelqu'un pourrait faire une bonne action, mais se comporter mal. Quelqu'un pourrait faire une bonne œuvre, mais avoir de mauvaises motivations dans son cœur. C'est à son fruit qu'on reconnaît un arbre. Et ça ne se voit pas tout de suite. Il nous faut du temps et il nous faut du discernement. Que le Seigneur nous aide à avoir ce discernement spirituel. Que son nom soit glorifié. Amen. Merci pour ta parole et pour ton esprit, Seigneur. C'est toi qui nous aides à y voir clair. Seigneur, que nous ne soyons pas aveuglés, que nous ne soyons pas séduits par de belles paroles qu'on pourrait entendre à droite et à gauche, Seigneur. Mais donne-nous du discernement, Seigneur. Nous ne voulons pas non plus avoir une attitude dure envers nos frères et sœurs en la foi qui passent par des moments difficiles, qui se sont affaiblis, parce que ta parole nous dit de supporter les faibles. Mais Seigneur, donne-nous du discernement afin que nous ne puissions pas nous laisser accaparer, prendre, manipuler par certaines personnes et leur donner nos choses saintes et nos perles. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté pour ton Église, qui a traversé les siècles et qui est toujours là. Qui a traversé les siècles et qui non seulement est toujours là, mais qui va de l'avant, Seigneur. Nous savons en quel temps nous sommes, Seigneur, que les temps vont être de plus en plus difficiles. Mais nous savons que toi, Jésus, tu es au milieu de ton peuple. Tu l'éclaires et tu le gardes. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.